Rien ne doit changer. Les choses sont très bien telles qu'elles sont.
Une société qui n'a pas ses premiers de cordée.
Ta gueule !
Calmez-vous, madame, ça va bien se passer.
Calmez-vous.
Vous allez voir.
Ta gueule !
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Ta gueule !
Calmez-vous.
Le dominant est dominé par sa domination. Domination.
La voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous soulève.
Je suis un dominant !
On se lève et on se casse, casse.
Et ça, c'est très bien.
C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir.
Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans XLR Accélère en direct de Troyes cette semaine dans le cadre de la formation Radio et Éduque Pop, éducation populaire. Pour thématique aujourd'hui, les rapports de domination. 14 personnes vont prendre la parole pour nous présenter leur sujet ainsi que leurs enregistrements. Et nous retrouvons de suite Valérie et Antoine qui vont nous aider à planter le décor.
Mathieu, Loïc, bonjour. Vous avez monté l'an dernier cette formation intitulée Radio et éducation populaire. Vous venez d'animer votre troisième session et vos 12 stagiaires s'emparent des outils radio pour créer cette émission collaborative. Donc merci d'avoir accepté de venir répondre à nos questions.
Donc, avec plaisir.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur cette formation ?
Eh ben, moi, c'est Mathieu. Je suis animateur jeunesse dans une MJC à Saint-Étienne, dans laquelle on fait de la radio depuis 3 ans. Et voilà.
Moi, c'est Loïc. Et du coup, je travaille dans une radio associative qui s'appelle Radio Audio à Saint-Étienne aussi depuis 5 ans.
Ok, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous est venue l'idée de monter cette formation et son contenu, à qui elle est destinée, etc.
Pendant le confinement, on a fait pas mal d'émissions, nous, dans la MJC à Sainté. Alors, c'était des émissions qui étaient faites à distance avec des vocaux. À ce moment-là, il y a eu un petit élan du podcast un peu partout et dans les MJC aussi. Donc c'est des choses qui ont été pas mal relayées au sein de la Fédé, dans la Loire et après de manière un peu plus globale. Et ça a donné des envies de faire de la radio dans d'autres structures. Et donc on a une demande de la DMJC 42 à faire une formation d'abord pour la Loire et après une deuxième session plutôt Rhône-Alpes. Et là c'est maintenant la Confédération DMJC qui suit plutôt ça avec l'idée de continuer ces formations, de faire du lien entre les différentes radios dans les MJC et puis... de se former ensemble, quoi.
Moi, j'ai l'impression que du coup, on a bossé en binôme parce que bon, déjà, on s'était rencontrés, qu'on se sentait un peu en affinité, et que ce que je trouve pertinent aussi, c'est de montrer, là, d'illustrer directement qu'il peut y avoir des liens entre des structures à caractère socio-culturel, des radios FM hertziennes, web radio ou asso existantes qui font déjà de l'atelier ou déjà de la radio et qu'il ne faut pas voir ça non plus comme quelque chose d'isolé mais plutôt collaboratif sur un territoire.
Ok, et puis ouais, on a pu tous juger et voir à quel point vos rôles étaient vraiment complémentaires aussi dans l'émission que vous menez au quotidien. Vous êtes capable de montrer vraiment des angles de vue et des objectifs différents. Est-ce que vous pouvez...
C'est vrai que moi, je viens pas de la radio. Je fais de l'animation avant de faire de la radio. Et pour moi, c'est un outil technique pour mettre du sens dans l'accompagnement des jeunes. Et que aussi, j'ai une manière de fonctionner plutôt à l'année avec un groupe qui est là de manière assez régulière. C'est un peu différent pour Loïc.
Moi, je ne sais pas toujours d'où je viens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne travaille pas dans les mêmes conditions et les mêmes contextes. Moi, je fais des ateliers plus courts. Mathieu a un projet à l'année avec des jeunes avec qui il bosse ensemble depuis 4-5 ans. Moi, en général, c'est plus ateliers courts, des interventions dans différents types de structures, un cadre très varié, mais aussi beaucoup plus bref. Et du coup, c'est assez complémentaire, ces deux manières de travailler qui sont assez différentes.
Ok, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus clairement en quoi la radio est vraiment un outil d'éducation populaire ?
Oui, il y a plusieurs choses. En fait, ce qui est intéressant avec la radio, moi je trouve, c'est que ça croise plusieurs types de compétences où aussi dans le groupe, chacune peut trouver sa place autour de la technique, de l'écriture, de l'impro, du montage, de la recherche des sujets. Donc ça déjà je trouve ça intéressant que c'est quelque chose qui se fait collectivement aussi et du coup ça fait jouer des manières de s'organiser ensemble Et après, il y a la question de la diffusion, valorisation de paroles qu'on n'entend pas souvent. Et...
Ouais, moi, je bosse pas en MJC, donc l'appellation éducation populaire, c'est pas forcément le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est vrai que j'ai un parcours où pour moi, la radio, c'est quand même un outil que, en général, j'utilise plus dans des trucs d'émancipation individuelle, un peu de recherche de transformation sociale, de promotion un petit peu d'alternatives, d'autres manières de fonctionner. Mais bon, finalement, je pense que ça se retrouve dans ce mot que vous utilisez dans vos structures aussi.
C'est ça, il y a tout un aspect politique de production de pensée collective. Quand on va rechercher un sujet, qu'on part de nos expériences et puis qu'on amène du contenu extérieur, on pense ensemble, quoi.
Ok. Et est-ce que c'est compliqué pour une structure d'éduc-pop de monter un projet, de développer un projet radio ? Est-ce que vous pourriez avoir... c'est quoi les premiers petits pas si on veut se lancer ?
Ouais. Moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, il faut un peu se décharger d'aspects très techniques et de faire ça de manière assez simple. Alors, en fait, on peut commencer à partir d'un téléphone portable ou d'un petit enregistreur.
On peut aussi, je me permets juste, commencer à bosser avec des gens qui en font déjà, si on ne sent pas de porter le projet, et de trouver d'autres personnes qui animent ce genre de choses et qui peuvent vous accompagner dans le début.
Oui, il y a une complémentarité à trouver entre le travail qui est fait en animation avec les groupes et puis des intervenants un peu plus spécialisés sur des aspects techniques de création d'émissions et d'enregistrement.
Bon, on peut aussi envoyer des animateurs suivre votre formation. Et du coup...
On avait dit pas de publicité.
C'est pas une publicité, c'est juste pour faire le lien avec le fait que Esteban et moi, on est allés à la rencontre des stagiaires de cette formation qui sont venus des quatre coins de la France pour recueillir leurs avis et leurs sentiments à l'issue de cette semaine riche et intense. Ça vous dit de les écouter ?
Ouais.
Alors c'est parti. En trois mots, qui es-tu ? Quel est ton job et qu'as-tu pensé de la formation ?
Alors moi je m'appelle Elliot Mariet, je viens de la MJC de Moulin.
Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans, je travaille à Radio Graffitis, donc à FIM dans la MJC.
Je m'appelle Dimitri, je suis animateur jeunesse et culturel en Haute-Savoie dans la ville d'Annemasse.
Moi c'est Anne, je suis animatrice référente culture au réseau animation de jeunes des Pays des Savernes.
Je m'appelle Scarlett, je travaille à la MJC de Rive-de-Gier, donc c'est une petite ville située entre Saint-Étienne et Lyon.
Moi c'est Antoine, animateur à la FRMJC, je suis mis à disposition d'une mairie sur un club ado.
Bonjour, Claude, je travaille à la MJC de Tréguin dans le Finistère Sud.
Alors, je m'appelle Ophélie, je travaille à la MJC des Tilleuls à Saint-Étienne en tant qu'animatrice à l'espace jeune.
Alors du coup, c'est Paul, j'ai 22 ans et je viens de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes et je travaille à Revin.
Ben, je suis Victor, je suis animateur jeunesse à la MJC de Rive-de-Gier à côté de Saint-Étienne. Et du coup, cette formation radio, je l'ai trouvée percutante, outillante et pratique.
Cette formation est très sympathique, complète et agréable avec des formateurs dynamiques.
C'était une découverte déjà, quelque chose de très enrichissante et aussi inspirante.
Riche, passionnant et un peu épuisant.
Intense, enrichissante et utile.
Qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce qui t'a marqué durant cette formation ?
Alors ce qui m'a marqué, c'est le projet qu'on est en train de tous de monter chacun de notre côté ou en groupe. Je trouve ça super sympa.
Je dirais l'alchimie qui s'est rapidement créée entre les animatrices du groupe et également avec nos formateurs qui sont très dispo, très à l'écoute. Ainsi que très pro et riche en conseils.
Ce que je retiens, il y a tout un travail intéressant, je trouve, autour de tout ce qui est oralité et formation, élaboration de la parole et d'un discours. Je trouve ça ultra intéressant à travailler.
Et... les branchements de câbles et tout, des trucs qui me semblaient un peu inaccessibles. Moi, j'ai beaucoup vu de câbles dans ma vie en tant que musicien. Par contre, j'ai jamais trop su qu'est-ce qui se branchait où et... quand je voyais une console, je voyais surtout plein de boutons, plein de faders.
Alors ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on a fait hier en fait, où on a passé un super moment à base de houblon, karaoké et d'interviews improvisées sur le vif. Donc c'était vraiment super cool, on a passé un super moment.
En quoi la radio est selon toi un outil cool à déployer sur nos territoires ? Qu'est-ce qui te fait waouh avec les outils radio ?
Ce qui me fait waouh, c'est de trouver sa voix. Voilà, moi qui suis plus amateur, qui a encore juste un projet de radio, effectivement, peut-être que je suis en train de trouver ma voix et ma voix.
Ce qui m'impressionne toujours, c'est déjà le matériel qu'on peut utiliser.
Moi, ce qui me fait waouh dans la radio, c'est l'horizon de création relativement infini et qui s'émancipe de toute image.
Ouais, ça, c'est un outil aussi de réflexion. Et c'est là où je pense un outil d'éduc-pop, quoi, de faire des émissions qui parlent, par exemple, comme c'était le cas de la semaine, sur les rapports de domination avec les jeunes. Moi, ça me donne hyper envie.
Je trouve que c'est un autre moyen d'expression pour les jeunes et que ce système de studio, de radio peut impressionner les... Enfin, impressionner dans le bon sens les jeunes. Ils peuvent se dire que c'est un moyen autre de débattre et c'est un moyen d'enregistrer ce qu'ils disent et d'en faire quelque chose, quoi. De sortir leurs paroles d'une simple pièce.
Je pense que c'est un outil cool pour la libération de la parole. En fait, j'ai fait beaucoup de débats avec les jeunes ados de mon club. Et des fois, il y a des trucs qui ressortaient où je me disais « Ah, ça aurait été pas mal que ça soit entendu par d'autres. » Enfin, ce qui ressort beaucoup chez les jeunes, c'est qu'ils ont l'impression qu'on les entend pas ou qu'on les écoute pas. Et du coup, la radio, c'est fait pour être écouté, quoi.
On a beaucoup moins d'appréhension, que ça soit chez des jeunes ou des adultes, d'ailleurs, à prendre la parole devant un micro qu'à se poser devant une caméra.
Bon, le fait de... Il y a quand même un truc, je trouve, de rapport au micro, quoi. Et de s'entendre parler, d'entendre les autres parler, et d'un coup, être un peu plus conscient des mots qu'on utilise et de comment on les dit.
Puisque c'est le thème de l'année, on va parler domination. Durant cette semaine, y a-t-il eu, selon toi, des rapports de domination, et si oui, lesquels ?
Ah, intéressant. Les formateurs ont été très dominants, je trouve. Non, je rigole. Non, je trouve que tout le monde s'est plutôt bien entendu. Je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de domination. Peut-être les seules dominations qu'on a pu remarquer, c'est les gens avec plus ou moins de compétences.
Entre nous, il y a un équilibre des expériences qui fait que chacun, chacune... s'écoute, se respecte, se questionne et au final on est tous sur je pense la même longueur d'onde et puis avec le personnel de l'établissement qui nous accueille également aussi bah, y a simplement un respect des locaux, de la hiérarchie, du public avec lequel on partage l'espace.
Il y en a toujours, c'est un peu inévitable. Après c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Moi je vais parler pour moi personnellement, moi je coche toutes les cases du dominant, je suis un homme cis, blanc, hétéro. Personnellement, je suis inévitablement dans une position de dominant. Après, qu'est-ce que je fais avec ça ? J'essaie beaucoup de me taire. Ouais, il y a les formateurs qui sont des tyrans, en fait. C'est des tyrans, bon, c'est inévitable. À chaque fois qu'il y a des formateurs, il faut qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils l'appliquent sur nous. Et... Donc ils nous ont fait nous lever, nous asseoir à leur guise, aller leur chercher du café. Il y en a un qui m'a demandé de nettoyer sa bagnole, c'est un scandale. Bah bon, il y a toujours ce type de rapport dans un groupe, et notamment quand il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation où ils font autorité de fait parce qu'ils ont les connaissances sur un sujet.
Et je conseille à tous ceux qui sont novices en radio de venir faire leur formation, parce que déjà l'ambiance est plutôt bonne et vraiment leur contenu est vraiment super.
Waouh, c'est comme à Energy ou Skyrock, quoi. C'est trop cool.
Alors justement, parlons-en des formateurs et de leurs excès d'autorité. Moi, je les ai croisés dans les couloirs. Je leur ai posé quelques questions sur ce qu'ils pensaient justement de nous en tant que participants. Attention, c'est sans trucage.
Contre toutes les règles de déontologie, je suis avec Mathieu et Loïc. Et donc j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez
de celles et ceux qui ont participé à la formation ?
C'est un peu dur de répondre à cette question.
Pareil, moi je comprends pas forcément qui c'est. Je les connais pas, hein, je crois. C'est des gens qui se font manipuler par, parce que ils font quand même la promotion d'idées avec lesquelles je suis totalement en contradiction. Donc j'ai pas non plus envie de faire d'elles des bichettes.
C'est une vaste blague, quoi.
Je l'exprimerai pas exactement comme ça.
C'est une classe qui défend des intérêts assez clairs.
La lutte des classes n'existe plus.
C'est une classe qui fait croire qu'elle n'existe pas vraiment ou qu'elle n'a pas d'intérêt, mais...
En fait, on les subit sans vraiment voir non plus les objectifs ces gens qui naissent dans un autre monde que le nôtre, je crois.
C'est une vaste blague, quoi.
Je pense qu'il y a une bonne partie qui est plutôt à pas faire de vagues, très traditionnaliste, rapidement humaniste, mais bon, parce qu'ils se disent bien qu'on peut pas être non plus totalement horrible, mais sur quelque chose où finalement le politique a assez peu d'importance par rapport à la manière dont ils s'organisent, leurs intérêts économiques et l'intérêt de leur cellule familiale.
C'est une vaste blague.
Et je pense qu'il y a effectivement une partie très réactionnaire. Je me questionne vraiment sur quelle proportion ça représente.
Ouais, puis c'est une sorte de vaste blague, de petite minorité là, mais qui est en train de prendre pas mal de place. On n'en parle pas trop et on leur laisse de la place, la place plutôt symbolique, qui prennent de plus en plus. Quoi. C'est une vaste blague.
Ok, merci beaucoup.
Bon, alors on va passer outre ma rigueur journalistique toute relative.
On voit que qui a
contredit tout ce qu'on a essayé de réfléchir ensemble.
Yes. Donc justement, parlons sérieusement de domination et d'autorité, de votre rapport à l'autorité. Donc, sauf erreur de ma part, vous êtes deux hommes blancs. Vous êtes plutôt, au moins sur ces points-là, identifiés comme dominants. Et la maîtrise du sujet de la formation vous donne de fait, en plus de ça, une position d'autorité. Alors, est-ce qu'il y a, d'après vous, des risques inhérents à cette position ? Et si oui, lesquels ça serait ?
Eh ben, oui, effectivement. le risque, ce serait de délivrer des vérités, des choses toutes faites, de ne pas réfléchir ensemble. Ce serait aussi de ne pas parler justement des rapports de domination, de ce qui peut se jouer et de faire comme si tout le monde partait du même point au niveau technique, oral, écriture, recherche, etc.
Je pense qu'il y a surtout quelque chose qui me semble fondamental, c'est quand on a une position dominante, déjà essayer de la conscientiser, surtout essayer de ne pas en profiter, ce qui sont déjà les deux, et encore tout ça... On n'y arrive pas tout le temps. Et à partir de là, essayer d'être dans une position où tu vas prendre le moins d'ascendant possible au vu de cette position que tu as et qu'on te donne, qui est un peu inévitable quand même aussi, il faut bien l'avouer.
Est-ce que vous avez des outils précis pour essayer d'atténuer votre position dominante ou pas spécialement, et vous faites juste le fait de le conscientiser et d'essayer au maximum d'en prendre acte, ça suffit?
Des outils, on pourrait parler d'outils d'éducation populaire un peu classiques qu'on a pu utiliser pendant la semaine. À mon avis, c'est pas ça l'essentiel, parce qu'en fait les outils on peut les utiliser de plein de manières différentes. Plutôt ça va être dans l'organisation collective un peu qu'on propose, par exemple au début de la semaine on a essayé de faire plutôt des groupes de niveau par la technique à l'oral pour rééquilibrer des choses et que les gens puissent s'exprimer de manière assez confortable dans des petits groupes, et puis au fur et à mesure de la semaine d'essayer de sur la production de cette émission là qu'on est en train de faire de créer de l'entraide et là pour le coup de remixer un peu les groupes.
Moi, par rapport à du coup, ce qui va être ma position, je dirais que j'ai l'impression que ce que j'essaye de faire un peu au feeling, parce que je ne formalise pas forcément l'éduc pop comme vous, c'est déjà d'expliciter, c'est-à-dire toujours formuler les endroits qui vont visibiliser justement ma position, de sortir d'un truc tacite que ce soit conscientisable pour tout le monde que oui, je suis dans une position qui va être un peu au-dessus de par mon rôle de transmission d'expérience, de savoir technique, de questionnement, etc. Et moi j'ai l'impression, mais après ça c'est plus peut-être un côté un peu pédagogie, j'essaye de répondre à des questions par des questions plutôt que de vraiment donner des réponses, qui est un peu relou parce que des fois je sais bien que vous voudriez des trucs un peu plus simples, mais c'est une manière aussi de justement pas diriger et de proposer plutôt plusieurs chemins, et après c'est à la personne de décider de celui qu'elle prend.
Ok, merci. Est-ce que d'après vous une certaine horizontalité vous semble possible dans vos formations, entre vous, entre les participants et participantes et dans tout ce groupe là?
Franchement, l'horizontalité, pour moi, réelle, je ne vois pas comment on pourrait faire une formation de ce type, autogérée, horizontale.
Moi, j'ai l'impression que l'objectif, c'est plutôt de réussir à, en une semaine, proposer ce temps d'émission où là, il y ait le moins de spécialisation possible, le plus d'horizontalité possible et de choix collectifs qui sont faits dans ce temps-là. Et que pour arriver à ça, justement, bah, il faut une semaine pour rééquilibrer toutes les différences qui sont souvent des conséquences de domination, oppression systémique, et qu'en fait tout ça, ça se prépare, que si on n'avait pas conscience de l'apport qui est nécessaire pour réussir à mettre les personnes à peu près à égalité, bah, en fait ça serait pas quelque chose d'horizontal, c'est du libéralisme finalement. Ouais. Tout ça, c'est un travail pour arriver à.
Ouais, et puis on ne sait jamais trop à l'avance quel va être le niveau technique, par exemple, parce que c'est ça qui joue pas mal. Des personnes qui vont être en formation. Moi, je rêverais un peu de, dans un deuxième temps, inventer un format un peu séjour entre animes autour de la radio pour partager des compétences et que là, ce soit chaque personne qui propose des choses. Ça demanderait pas mal de prépa à l'avance aussi pour que les gens puissent transmettre des compétences, prennent pas trop de place dans le groupe, etc.
Ok. Et du coup, dernière question, entre vous deux, c'est qui le patron ?
C'est Mathieu.
C'est Loïc, c'est sûr. C'est Loïc, il fait de la radio depuis beaucoup plus longtemps que moi. Il a plus de compétences techniques. Mais en vrai, c'est moi, mais il ne le sait pas. Parce ouais. que c'est moi qui suis en lien directement avec les MJ.
C'est Mathieu parce que c'est lui qui parle le moins, qui visibilise le moins son rôle de chef et qui, du coup, stratégiquement, se place dans une posture où finalement il manipule un peu dans l'ombre. C'est pas que je sois complotiste, mais c'est quand même une manière dont certaines classes dirigeantes ont l'habitude justement de se comporter un petit peu pour garder du pouvoir sur les masses.
Enfin, moi, ce que je remarque, c'est que tous les PAD qui sont lancés, ils sont lancés depuis l'ordi de Radio Dio là-bas. Mmh. Et ça, c'est pas neutre, je pense.
Et ce qui enregistre, c'est celui des tilleuls. Donc voilà. Après, pareil, je vous laisse avec vos questions.
Ok, merci beaucoup. Je vous propose qu'on laisse la place parce qu'on est encore en train de discuter entre mâles blancs. Donc, je vous propose qu'on laisse la place pour parler rock et genre à Elisa.
Bah, du coup, vas-y, t'as introduit, je t'en prie.
Eh ben, merci, et Seban et Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Grand Est Radio. Avant de lancer le sujet, on va faire un petit point météo et info du jour. Alors, dans l'actualité de ce vendredi 8 avril 2022, la météo côté température ce matin, il fait actuellement 7 degrés. Pour les minimales, ce sera 3 degrés. Et pour cet après-midi, où on atteindra les 14 degrés. Côté ciel, de la grisaille et de la pluie pour toute la journée, un peu comme cette dépression qui ne veut pas nous quitter, et oui. Et côté info, l'info importante du jour, c'est la fin de la formation radio à Troyes, à Rosières, près de Troyes. Après une semaine de formation et de soirées à base de houblon et de balles rebondissantes, ça y est, c'est la fin. Et puis la disparition d'un homme sur le campus, un reportage qui va être expliqué par Dimitri. Et la tempête Diego qui s'abat sur la France, comme on peut le savoir, et 5 départements qui sont en vigilance orange. C'est la fin du Flash Info, je vous laisse avec mon sujet qui parle de rock et notamment des filles dans le rock où les dominations sont toujours aussi importantes puisqu'on parle souvent des groupes de rock masculins. Bonne écoute à vous. Cactus Mag, c'est un épisode par semaine sur Grand Est Radio. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cactus Mag sur Grand Est Radio, un épisode par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet tout particulièrement super important. On va parler des femmes dans le rock et surtout actuellement. Alors, on va se faire un petit côté historique tout de même, en quelques grandes lignes. Voici les pionnières du rock féminin, voire féministe, et qui, comme vous le savez, dans cette société des années 60, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Bien heureusement pour vous, la société a quand même plus ou moins bien évolué, à quelques exceptions. Mais avant d'arriver à nos années, retournons dans le passé avec The Ronettes, un groupe de rock doo-wop. Et non, le doo-wop, ce n'est pas qu'une brioche pour le goûter. En tout cas, le doo-wop, c'est un mélange de swing rock qui nous permet de danser un peu aussi le twist. Je vous laisse en juger.
C'était Be My Baby, un titre sorti en 1963. C'est sûr, on va pas s'en lancer dans une série de pogo, mais en attendant, le Billboard l'a classé numéro 1 de son classement en 2017 des 100 meilleures chansons de girls groups. Comme quoi, la scène vaut mieux que la cuisine, hein. Et puis le Rolling Stone Magazine classe Be My Baby en 22e position de son classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps. C'est pas mal, non, pour un groupe des années 60. Bon, allez, on va avancer un peu dans le temps et hop, bim, bam, boum, on arrive vers la sueur, le sang. Et comme le diraient les gens du rock ou encore Philippe Manœuvre, sexe, drogue et rock'n'roll. En 1975, un groupe de nanas super badass tout droit venu de Los Angeles, on va parler des Runaways. Et oui, Los Angeles, la ville des Lakers ou encore même du Hollywood Boulevard. Après, j'ai pas pu me rendre sur place pour le confirmer. En tout cas, ce groupe est pas là pour jouer au Barbie, mais plutôt pour casser des culs ou des guitares. C'est comme vous le voulez. En tout cas, je vous laisse écouter et en juger. D'ailleurs, en parlant des Runaways, les membres principaux étaient... Enfin, les membres principaux, puisque c'est des nanas. Eh bien, c'était Joan Jett ou encore Cherie Curie. Mais là, on va parler de Joan Jett. Et ouais, après la séparation des Runaways en 1979, ouais, le groupe n'a pas fait long feu. Joan décide de faire sa route seule, après quelques soucis, avec quelques différends dans les maisons de disques, car elle était énervée, notre petite Joan, et elle avait raison. Joan se lance donc dans les 80s, et ça roule plutôt bien pour elle. En tout cas, on la connaît avec son titre I Love Rock'n'Roll, ou encore Bad Reputation, connu dans le... film d'animation Shrek où il y a une scène de bagarre et on va se l'écouter pour faire un peu de pogo là. Bon, cette fois, on avance un peu plus dans le temps. C'est vrai qu'on pourrait parler longtemps des années 80-70, mais là, on va se retourner dans les années 2000 avec toujours les filles dans le rock, donc on va toujours pas parler de Bruno Mars, non, non. Mais en tout cas, on va parler d'Avril Lavigne, un retour dans vos souvenirs de collège. Ça y est, la nostalgie vous revient. En tout cas, qu'est-ce que c'est et qui est Avril Lavigne? Eh ben, Avril Lavigne, c'est du bon vieux pop-punk à la Sum 41 en mode meuf et cheveux roses, en mode vénère. Ouais, toujours comme notre amie Joanne. En 2007, Avril Lavigne sort un titre qui s'appelle Girlfriends en mode crépage de chignon qui envoie du lourd et nous renvoie à cette tendre nostalgie pour ma part. Allez, on s'écoute Girlfriends. On pourrait encore parler longtemps des années 90-2000, mais là, on va s'avancer un peu plus dans le temps. On va revenir à notre époque. Et oui, ça fait du bien. On continue dans cette dernière partie, soit en 2021-2022. On va parler de rock français et notamment du rock féminin. On va parler de Pogo Car Crash Control. Bon, la majeure partie du groupe est quand même masculin, mais il y a quand même une fille qui en ressort. On va parler de Lola Frichet, la bassiste du groupe, qui a été élue meilleure bassiste du monde en 2020 d'après le magazine She Shreds, après le challenge One Riff a Day qui a duré pendant 31 jours, où il fallait poster tous les jours un riff imaginé et composé par cette personne. En tout cas, après cette jolie satisfaction, eh bien Lola a décidé de mettre en place une initiative qui s'appelle un mouvement qui s'appelle More Women on Stage. Donc la traduction littérale, c'est plus de femmes sur scène. Et ce mouvement permet de soutenir plein de femmes dans le rock avec plein de publications sur les réseaux sociaux avec le compte More Women on Stage. Et on va parler de deux groupes un peu féminins, même un peu beaucoup. On va parler de Toy Blue Id, Lead, dont les deux leaduses sont deux filles, et le batteur est un garçon, hein, bien sûr, mais en tout cas, souvent on les appelle elle, et lui, ça le fait plutôt rire parce qu'il se dit oh, wow, c'est un groupe de filles, quoi, c'est normal. Et on va parler aussi de Slurp, qui s'est séparé malheureusement en 2021, mais bon. Il fait quand même partie, comme les Runaways, hein. Les Runaways se sont séparés, pourtant on en parle toujours. Alors on va parler un peu de Slurp, et Tabloid aussi, qui a fait un duo avec Suns, une chanteuse franco-allemande qui fait de la brutal pop, et donc là ça scream, et ça c'est encore plus violent que le pop-punk. On va s'écouter ça. En tout cas, le rock est toujours compliqué pour les femmes. Depuis les années 60 comme à aujourd'hui, les maisons de disques ont du mal à signer des femmes. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. C'est un milieu très très machiste encore, puisque bah, les groupes de rock que l'on connaît, c'est les Rolling Stones ou encore les Who. Mais on ne parle pas beaucoup des groupes féminins. En tout cas, je vous laisse avec ces dernières écoutes et merci de m'avoir écouté.
C'est parti, vous êtes toujours dans Accélère, Accélère, et on se retrouve avec Elliot et son sujet. Et si on remontait le fil 2, c'est à toi.
Je te remercie Esteban, on se retrouve tout de suite après le générique. Nous allons remonter le fil.
Ouais, c'est venu... En fait, moi je fais de la web radio depuis 4 ans.
Le fil d'Esteban.
Quand j'ai découvert ma passion pour la radio, je me suis dit il faut que je fasse un truc de ce niveau-là. Et en fait, moi, je m'entraînais chez moi tout seul sans
Nous allons remonter le fil.
Le point de départ n'était pas particulièrement facile parce que.
Le fil d'Elisa.
Parce que bah, arrêter ses études pour l'instant, c'est toujours compliqué, surtout à un jeune âge où on se dit bah, en plus, on connaît le monde du travail, alors est-ce qu'on va.
Parce que c'est un super exercice parce que tu vas apprendre à te connaître toi, tu vas apprendre à connaître ta voix.
Le fil de Dimitri.
Il y a vraiment à tout le monde de la vivre, ne serait-ce qu'une fois, pour se tester aussi un peu.
Aujourd'hui, je suis. Animatrice ado en MJC.
Le fil de Scarlett.
Peut-être que je travaille dans la ville où j'ai grandi et je me dis je travaille pour des jeunes qui ont grandi exactement au même endroit que moi et que je leur donne la chance que moi j'ai pas forcément eu.
Bonjour tout le monde, moi je vous propose un segment un peu plus chill. Aujourd'hui nous allons remonter le fil de Valérie. Bonjour Valérie. Ah, le micro de Valérie.
Bonjour Elliot.
Comment vas-tu?
Ça va super, merci.
Comment se passe l'émission pour toi, pour le moment?
Super bien, c'est hyper cool, c'est fun, et puis il y a plein de sourires autour de moi. Alors.
C'est vrai. Alors, justement, on t'a déjà entendu au micro, mais je crois que tu ne t'es pas encore présentée. Donc, d'où viens-tu Valérie, et que fais-tu dans la vie?
Alors moi, j'ai la chance d'être maintenant animatrice du tiers-lieu numérique d'une MJC du pays de l'Herbasse, dans la Drôme. Et voilà, du coup, c'est là-bas que je me suis installée depuis peu et je suis super contente.
Oui, et on en avait parlé pendant notre covoiturage. Et du coup, dans cette formation, qu'est-ce que tu espères tirer de cette formation? Car nous sommes au présent, pour le moment.
Si je suis super contente, justement, d'être dans cette MJC, c'est que... Elle me permet de déployer plein d'outils pour créer plus de liens, de partage entre les habitants, de donner la parole à chacun et que chacun puisse prendre du plaisir et s'éclater un peu dans la vie. Et du coup, bah, moi, être capable de proposer ces outils-là et les mettre à disposition, bah, je trouve ça magique et super cool. Il faut savoir prendre du plaisir dans la vie.
C'est vrai que ça, on a appris justement pendant cette formation que vraiment donner la voix aux gens et aussi l'apprendre à la radio, c'est vraiment une chouette expérience et c'est vraiment génial de pouvoir la partager ensuite après cette formation. Donc je suis content pour toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. On va passer du coup à notre deuxième petit extrait.
Et puis après, j'ai participé à un concours qui s'appelle... Je vais dire une connerie, les haut-parleurs, je crois, concours d'éloquence. Pendant le concours d'éloquence, on travaille la voix, on travaille la posture vocale. Donc, ouais, il y a un travail qui est fait. Mais il y a quand même une part de naturel, je pense, qui était bien présente avant ça.
D'accord. Donc
Et suite à ça, l'année dernière, j'ai fait un service civique à la radio. J'ai trouvé ça super intéressant. Le responsable qui était là pour m'aiguiller m'a appris beaucoup de choses. Je fais apprendre pas mal de choses en musique.
Commencer à faire de la radio tout seul, je pense que c'est un super exercice parce que tu vas apprendre à te connaître toi, tu vas apprendre à connaître ta voix, ta vraie voix aussi, parce que c'est le truc qu'on répète à tout le monde, mais quand tu t'entends dans un micro, c'est super bizarre et c'est aussi un peu c'est t'entendre comme les autres vont t'entendre.
Mon regard a changé quand j'ai attaqué ma formation BPJEPS, je dirais. Et il a encore plus évolué quand j'ai attaqué l'année dernière à la MJC. Où là, je me suis beaucoup, moi, remise en question. Et je me suis un peu cherchée en me disant, mais en fait, ouais, je fais ce métier, c'est vraiment pour ça. Et en fait, je m'en ai peut-être pas rendu compte avant.
Cool. Alors, Valérie. Si on remonte le fil un peu, quelle est la première expérience qui te vient à l'esprit, qui t'a marqué dernièrement ?
Dernièrement, j'ai eu la chance de partir faire un grand voyage à vélo en famille avec mon mari et mes trois enfants. On est parti un an avec quelques sacoches, trois t-shirts chacun, vraiment le minimum. Et ça nous a vraiment... c'était une expérience extraordinaire, quoi, à la rencontre des autres. Et qui nous a vraiment rapprochés de l'essentiel.
L'essentiel. Comment tu définirais l'essentiel maintenant, justement, après ce voyage ?
Ben justement, après ce voyage-là, on est vraiment... on s'est rendu compte que, justement, avec très peu de matériel, on a besoin de rien pour être heureux, finalement. On a besoin juste de liberté, de rencontre, de partage... et de savourer vraiment la vie. Donc c'est vrai qu'au retour, on avait besoin de sens, de mettre notre énergie au bon endroit pour contribuer au monde qu'on a envie de voir éclore autour de nous.
Je vois. Est-ce que travailler à la MJC, se retrouver dans ce genre de poste, c'est plutôt idéal justement pour influencer en fait ce qui est directement autour de nous?
Exactement. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Et puis, dans l'équipe dans laquelle je travaille, il y a vraiment cette énergie-là d'inviter chacun à donner le meilleur de soi-même. Pas forcément de coller au poste précisément, mais au contraire, d'aller chercher au fond de soi vraiment où est-ce qu'on a l'énergie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait waouh, et qu'on aille vraiment un maximum vers là, parce que c'est là qu'on est les meilleurs et qu'on peut rayonner aussi auprès des habitants, des jeunes, des personnes qu'on peut côtoyer et qu'on accompagne.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as l'impression de voir les gens différemment et peut-être de voir, en fait, justement, peut-être les niveaux, en fait, de blocage un peu artificiel, justement, les choses que toi, tu as débloquées via ton voyage? Est-ce que tu arrives à le voir chez les autres?
En tout cas, ce voyage-là, c'est sûr que... Comment formuler ça? Il nous rapproche vraiment de... On a envie de prendre soin du vivant, du vivant dans son ensemble. Et du coup, prendre soin du vivant, ça veut aussi dire prendre les gens là où ils sont, au moment où on les rencontre. Donc, il n'y a aucun jugement. C'est juste accueillir tout ça et puis l'accompagner et puis permettre, encore une fois, aux personnes de s'éclater et d'aller là où elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes.
C'est une super philosophie. Eh bien, on va écouter les derniers témoignages.
Moi, pendant longtemps, il n'y a pas eu d'homme à la maison. Avec ma mère, tu vois. Et en fait, j'essayais tant bien que mal et vraiment sans m'en rendre compte, mais de donner de la voix, en fait. Il y avait un truc très naturel de quand il y a un truc qui allait pas et que normalement il y a un adulte, un homme adulte qui devait s'occuper de ce problème-là. En fait, moi, je m'en occupais et je pense que ma voix m'a beaucoup aidé, tu vois.
Alors, au collège, j'ai vécu le harcèlement, donc il y avait beaucoup de jugements, forcément. C'était très très dur parce que ça, la dernière année du collège a été très difficile parce qu'on m'a accusé de choses, il y a eu une pétition contre moi, je suis passée en conseil de discipline, enfin des choses assez affreuses pour mon âge.
Faire de moi, parce que justement pour te répondre, je considère que à partir de, bah, presque depuis toujours, mais quand t'es enfant c'est dur de parler de ça parce que tous les enfants le font un peu, mais j'ai toujours été hyper enclin à mettre, on va dire, un masque de personnage, que ce soit pour être marrant dans la cour de récré ou pour t'imaginer des histoires en primaire ou que ce soit pour te protéger peut-être de trucs comme du harcèlement ou des trucs comme ça quand t'es au collège.
Ou non, en fait, je sais pas trop. À l'âge de 8 ans, j'ai été hospitalisée parce que j'ai une maladie auto-immune. Donc c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se stabilise avec un traitement. Et donc du coup, j'ai été un peu coupée du monde parce que quand t'es hospitalisée à 8 ans, bah, t'es à l'hôpital et tu vois pas tout ce qui se passe autour. Tu vois plus tes copains de primaire, quoi. Et je pense qu'elle m'a et renfermée sur moi-même et en même temps, elle m'a fait mûrir d'un coup, quoi.
En faisant ces interviews, j'ai chose que j'ai réalisé, que je savais déjà plus ou moins, mais que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça me surprend, en fait, à quel point, quand on remonte le fil d'une personne, justement, on peut trouver un peu le point de départ de leur trajectoire et ça peut parfois ça explique beaucoup de choses et ça explique notamment peut-être des failles ou des vulnérabilités et aussi en fait les forces, les points en fait de frottement où la peau ou l'os quand il a été réparé est devenu plus dur à ce point-là. Et justement après notre conversation sur ton voyage, je m'étais demandé en fait qu'est-ce qui vous avait mené en fait à créer ce projet qui était d'une certaine ampleur en fait. C'est pas rien parce que tu es parti avec tes trois enfants, dont un en bas âge, c'est ça, 2 ans. Elle avait 2 ans à l'époque, c'est ça. Mmh. Qu'est-ce qui vous a en fait vraiment poussé à faire ce voyage? Qu'est-ce qui vous a encouragé
Je crois que j'ai toujours eu envie, depuis toute petite, de partir à l'aventure, parce que j'aime rêver. J'aime aussi vivre intensément. Et du coup, ouais, l'envie de partir, elle a toujours existé. Et après, c'est sûr qu'au fur et à mesure du chemin de vie, on se rend compte qu'effectivement, il faut savoir savourer chaque instant et vivre intensément la vie qu'on a envie de mener, pas attendre demain pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Et puis, bah, c'est sûr, bah, voilà, j'ai perdu mon papa, par exemple, et puis quelques années avant. Et puis, c'est sûr que ça m'a poussée aussi à me dire, bah, OK, faut pas attendre, faut y aller, faut rêver, faut vivre. Vivre. Et d'ailleurs, on a retrouvé une phrase dans le carnet qu'il avait écrit, où il aimait bien mettre des citations régulièrement, et dans laquelle il avait marqué... Il faut que je le retrouve, pardon.
Prends ton temps.
Il avait noté « Par respect pour ceux qui meurent, on se doit de vivre. »
Ouais, je comprends très bien. J'ai vécu une expérience similaire l'année dernière. Okay. Effectivement, mon premier réflexe, déjà de toute façon, même à l'approche de la perte, parce que j'ai eu le temps de l'avoir venir, mon premier réflexe a été aussi de me dire non au regret. Et j'ai commencé à regarder un peu dans ma vie et me dire, OK, là, il y a eu un regret, bien, dans ce cas-là, on va y remédier. Mmh. Et à remonter un peu la liste. Et je comprends du coup très bien, du coup, voilà. Qu'est-ce qui t'a mené à voyager. C'est effectivement une force de se rendre compte de ça. Et j'invite, du coup, tous nos auditeurs à vivre sans regret.
Très très bien, merci pour vos témoignages, c'est très très émouvant. Maintenant, autour de la table, on retrouve Paul, Ophélie, Victor et Claude pour l'enquête paranormale. C'est à vous.
Enquête paranormale, épisode 0, Spectre versus Brune.
Vendredi 8 avril 2022, 11h29, département de l'Aube. Décor à la Star Trek, météo mitigée et ambiance vaporeuse.
Cela fait 4 jours que nous sommes dépêchés par la Fédération Nationale des MJC, Mystères de la Jeunesse et Consorts, afin de mener une enquête à propos de l'étrangeté de ce CSA, Centre Sportif de l'Aube.
Depuis son inauguration par le MEC de Michel Larocque le 23 septembre 2005, des observations louches et inexplicables ont été signalées. Pour le moment, aucun élément sérieux nous mettant sur une piste à suivre n'est à notre disposition. À part, peut-être, une vieille histoire qui nous paraît constitutive du territoire.
Il s'agit de la destruction de la MJC de Troy dans les années 70. Destruction opérée par le pouvoir dans le but de vider l'éducation populaire de ces éléments qualifiés de gauchistes.
Gauchiste, nom et adjectif non genré, individu le plus souvent désargenté, aspirant à vivre mieux sans marcher sur la gueule des autres.
Revenons-en à nos animateurs, enfin à nos moutons. En tant qu'animateur, détecteur, détective, spécialisé dans l'élucidation de la transversalité active des relations tangibles et intangibles,
vivantes et non vivantes,
bourgeoises et prolétaires,
voici notre mission.
Percer le mystère qui plane en ces lieux.
Notre méthodologie dialectique,
voir,
comprendre,
agir.
Avec vous ce matin, moi-même, Emilien Zopoto,
Rosa Kronenbourg,
Victor Bokserovitch-Ulianov
et Sœur Paolo.
Nous sommes donc allés à la rencontre des habitants, vivants et non vivants de ce centre sportif, ce concentré d'équipements musclés, de dispositifs percutants financés par le département de l'Aube. Voici leurs paroles.
Je m'appelle Kylian, j'ai 17 ans, je suis congolais camerounais et je suis en centre de formation depuis maintenant 4 ans.
Alors je m'appelle Hugo Boulet, je suis au centre de formation de l'ESTAC en tant que gardien de but. Je suis né en 2004 et j'ai intégré ce centre de formation il y a 3 ans.
Je viens d'arriver cette année et avant j'évoluais en région parisienne avant de venir ici. C'est le vivier des talents un peu, l'Île-de-France. Du coup, les clubs ils vont beaucoup voir sur Paris, etc.
Je joue à Fleury-Mérogis, en Île-de-France, en Essonne. J'ai été repéré. Et après, j'ai été appelé pour faire des essais. Et j'ai réussi les essais et je me suis retrouvé ici. C'est une fierté.
Oui, j'ai réussi à me sortir du lot pour intégrer ce centre. Ouais, on passe beaucoup de temps ici, toute l'année, et on voit plus nos potes et nos coéquipiers que nos parents, en vrai.
C'est sûr qu'être loin de la famille, souvent, c'est chiant.
Les débuts en centre de formation, c'est dur, parce qu'on n'a pas de repères et tout. On sort du cocon familial et tout, mais après, on s'habitue, et du coup, ça va.
Certes, mes parents, ils se disent, on l'a pas vu trop grandir, mais en même temps, ils se disent que c'est pour mon rêve et qu'ils sont fiers de moi sur tout ce que je fais.
Cette année, si je dis pas de bêtises, au centre de formation, plus la réserve, on est peut-être une 50-60 et qui finit pro par an, enfin par année, peut-être 5.
Le matin, bah, y a le petit déj déjà, il est obligatoire, de 7h à 7h30. Moi je viens aux alentours de 7h20. Ensuite je vais en cours, on a 2 heures de cours le matin, de 8 à 10. Ensuite à 10h on va à l'entraînement, on revient au centre aux alentours de midi, on mange et en fonction des cours de chacun, bah, on va en cours l'après-midi.
Il faut avoir une autorisation ou demander à un coach pour avoir le droit de faire une petite sortie ou aller quelque part.
Parce que après, ça devient une famille. Hein. Et là, on habite ensemble et tout, on fait tout ensemble.
On n'est qu'entre garçons, du coup, on évolue entre nous, bien dans notre communauté, et voilà.
L'école d'ingénieur, ouais, parce qu'ils dorment juste à côté. Et bah souvent, ça arrive qu'on les croise quand on va à l'entraînement ou quand on va à la cantine, on les croise. Ça peut arriver. Mais après, on n'a jamais discuté avec eux.
On voit des gens de l'extérieur qui, ont, quand on discute avec eux, on n'a pas l'impression de vivre dans le même monde. Certaines choses devraient nous être plus accessibles et pas nous traiter comme des personnes qui sont coupées du monde, à part. Et...
Après, il y a les fans du club. Eux, ils nous voient bien, ils nous voient comme le futur du club. Ils espèrent nous voir en haut. Ils nous encouragent et tout, même pour les matchs et tout. Et pour les autres gens, je sais pas, ils doivent nous voir comme des footballeurs. Des fois, ils nous voient comme des gens qui se la pètent. Ils pensent qu'on se prend pour des gens qu'on n'est pas, alors que pas du tout. Nous, on est là juste pour faire du foot. On fait ce qu'on aime, mais on veut pas se la péter ou quoi que ce soit.
Footeux, c'est un cliché. Après, on est tous issus de la région parisienne. Région parisienne, c'est pas une bonne référence, c'est quartier et tout. Ça veut dire que que ça soit avec les grandes personnes ou les profs et tout, et on est un peu mal vu. Mais après, quand ils apprennent à nous connaître, ils voient qu'on n'est pas des racailles ou que voilà. Enfin que même si on vient d'un quartier ou autre, qu'on est des êtres humains comme eux et du coup ça se passe bien. Mais c'est vrai que le cliché, il est dur un peu. Je vais pas le dire, mais après, il y a la couleur de peau aussi qui joue beaucoup. Là, on est... dans notre équipe, il y a à peu près que des Noirs. Et du coup, le fait qu'on marche souvent en groupe, en bande, du coup, on passe un peu... On passe pas inaperçu. Mais après, ça, on a appris à vivre avec. Et maintenant, ça ne dérange plus trop, on calcule plus trop.
Si je fais pas, si j'aurais pas fait du foot, je sais pas ce que je ferais.
Après ces témoignages des footballeurs de l'Estac, nous avons également été témoins de bruits étranges, dont l'origine est pour le moins incertaine. Mais ce qui se dit par-delà les doutes existentiels et matériels, en deçà des parties de foot et des chambres à coucher, ce qui se murmure entre les murs et les passes, ce qui se trame entre les existences et sur le terrain, de la banlieue parisienne en passant par le self, c'est qu'un spectre hante l'ordre du monde.
Ordre, nom masculin, disposition régulière ou subjective, satisfaisant à minima l'esprit du premier de cordée. Il est généralement linéaire. L'ordre social, concept sociologique qui désigne les interrelations humaines dans une société. Lui est pyramidal.
Je m'appelle Fatmi Kilian, j'ai 16 ans, je viens de Reims, je suis en bac pro mécanique poids lourd.
Bonjour, donc je m'appelle Kilian, je viens de Nogent-sur-Seine, j'ai 15 ans, je suis en carrosserie.
Salut, je m'appelle Stélan, je viens de Lyon, vers Auxerre, j'ai 16 ans, je suis ici parce que je fais un bac pro en mécanique moto, du coup on vient à l'internat des sports, et puis voilà.
Je m'appelle Jeanne Goa, je suis... ici en CAP, moto, donc mécanique, et c'est ma première année. Moi j'ai 15 ans et j'ai eu 16 mercredi. Petit truc tranquille.
Ouais, tranquille. Hein.
Ma famille, ils sont contents de moi, même si parce qu'ils savent que je suis pas très bon à l'école et tout ça, du coup ils aiment bien, mais voilà. C'est pas pareil que médecine, mais ils sont quand même fiers de moi.
Ouais, chacun son métier quoi. Chacun sa passion.
Ah, c'est plus un métier d'homme.
Ouais, ils ont pas trop envie de se salir les mains. Là, y en a une, si, elle est en carrosserie, je crois, c'est tout. Mais sinon, en mécanique, il y a zéro fille.
Travailler dans des bureaux, c'est pas trop mon kiff. Je préfère être manuel. Il y en a plein qui pensent qu'on n'aurait pas dû, parce qu'arrêter l'école, quand même, pour travailler à cet âge-là, c'est compliqué. Mais...
Bah, après, c'est leur choix, mais c'est pas mon kiff. Ils gagnent un peu plus, mais c'est pas grave, faut mieux profiter.
Oh bah, ça, je sais pas, chacun ses arguments. Hein.
Bah, en fait, rester assis sur une chaise toute la journée, c'est...
Bah, nous, on est tranquille, on profite. Voilà, c'est tout. Après... On a pas nous. Après, si on est là, c'est qu'on n'a pas envie d'être dans des bureaux ou des trucs comme ça.
En fait, je suis venu ici parce que mon père, il a un magasin de motos.
Ah, on les a fait, les ingénieurs.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est du trou du cul, ça sert pas grand chose.
La mise n'est pas sereine sans café. Mon cher, il se sent, on va finir en garde à vue.
C'est comme si, malgré la densité du brouillard, une esquisse de ce spectre se dessinait dans les paroles que nous avons collectées. L'écho de cette rumeur résonne contre les parois de ce lieu-monde et matérialise d'autres parois qui, elles, sont figées entre elles. Quelque chose d'assez violent et malsain semble maintenir à des endroits bien précis les différents groupes vivants, ici ou là-bas.
Rapport. Dans ce contexte, nom masculin, généralement pluriel. Rapports sociaux. Relations entre des personnes, se croisant souvent, se côtoyant rarement ou, par choix, s'ignorant à jamais.
Ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs.
J'ai 23 ans, ça fait 4 ans que je suis à 3 pour mes études. Moi je viens de Brest, donc la vie étudiante, parce que j'ai fait 2 ans à la fac avant de venir ici, et la vie étudiante à Brest en soirée et la vie étudiante à Rennes, et celle de 3, celle où bah, t'as pas peur le soir, tu peux rentrer chez toi à pied, il est 4h du matin, bah, il y a toujours l'éclairage alors qu'à Brest il fait nuit.
Soit tu diriges à peu près tout le chantier, soit tu finis en bureau d'études aussi souvent, tu finis en bureau de structure à faire des calculs toute la journée. Mais en même temps, tu te sens pas forcément légitime parce que le mec est. Enfin, diriger des gars, c'est vraiment pas pareil que coordonner les travaux.
Et c'est vrai que t'as tout cet aspect social qu'il y a beaucoup moins en conducteur de travaux. Juste, t'es en mode. T'es formel en fait, en conducteur de travaux. Vraiment, tu te files le dos et tu comprends que c'est pas vraiment ce que t'as envie de faire. En fait, vraiment, tu goûtes au métier manuel et t'es en mode. Putain, quand même, c'est chaud quoi. C'est vrai que il se tue le dos, c'est vraiment indécent. Et en vrai, ça met un peu mal à l'aise de vivre, enfin de travailler à côté d'eux. Toi, t'es dans un bureau, tu vois, t'es. Je pense pas être le seul à s'être rendu compte de à quel point c'est difficile d'être ouvrier.
J'ai fait un stage en conduite de travaux et j'ai pas du tout aimé. Voilà, les horaires, c'était j'arrivais à 7h sur le chantier, je repartais à 18h au mieux. Et payer une misère, travail pas reconnu. Et puis après, t'as la direction qui te met des coups de pression, touche pas tes primes parce que t'es en retard, le chantier a du retard. Et en soi, là, je bossais avec des gens et c'était des gens merveilleux, mais bah, t'es obligé de leur dire qu'ils vont pas assez vite, ouais. Alors qu'on leur dit qu'il faut qu'ils aillent plus vite, qu'il faut qu'ils diminuent leur temps de pause. Mais...
On est genre 6 à venir de 7, enfin, d'une prépa qui vient d'STI2D. Du coup, il y a beaucoup de gens de ces milieux-là, parce que c'est facile d'y accéder, mais. On peut y accéder en étant pauvre, mais tristement pas forcément cette école, quoi. Parce que ça t'endette vraiment sur beaucoup d'années si t'as beaucoup de mal. Genre moi, j'ai même en étant d'un milieu pas mal, j'ai quand même du mal à certains mois à m'en sortir. Donc c'est vrai que faut quand même un sacré soutien.
Du coup, on se fréquente entre nous. Il y a l'UCT, le STP. De temps en temps, on fait une soirée avec une école, l'autre avec eux. Bon, depuis le Covid, on reste plus entre nous parce que ben.
Enfin, genre, vraiment, c'est, il n'y a pas de mépris. Je sais que ça va être facile de interpréter, mais c'est vrai que il n'y a que de la bienveillance au sein de l'école. Genre, c'est pas vraiment. Pas vraiment. Genre, en fait, tu le sens pas socialement, genre. Mais tu le sens parce que tu sors moins que certaines personnes et tout. Tu vois, eux, ils sortent. Enfin, ils consomment, tu vois. Notre école, elle est privée, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens issus de. Des milieux plutôt riches. Moi je le vois pas mal, enfin je trouve pas non plus qu'il y ait mépris. Je veux dire, là c'est bientôt loin, il y a les élections présidentielles et tu peux voir que vraiment dans l'école il y a toutes les idées différentes. Enfin, les gens partagent pas trop quand ils sont extrêmes, mais ils se mettent à la place d'autrui et ça je trouve ça. Alors qu'ils viennent de milieux riches et aisés, et ça je trouve ça bien.
Mais après, est-ce que c'est le fait qu'on est en privé, qu'on se croise pas? Je pense que surtout on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Ouais, ouais. Si tu fais 8h-19h à travailler, si tu veux pas t'y mettre au dernier moment pour bosser, c'est après tu rentres chez toi, tu vis ta vie un petit peu, tu fais une petite pause, c'est une grosse journée, tu te fais à manger, il est 20h-20h30, ouais. Tu bosses un peu, il est 21h-22h. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait mes deux premières années, et ben 22h t'es claqué, tu
vas. Windows 98. Je fais des concours de calculatrice. Je suis vraiment trop.
Derrière la brume, enfin, les rapports prennent forme. Nos yeux finissent par les distinguer. Leur clarification laisse apparaître leur laideur. Le mystère, la matrice, l'étrangeté de ce centre sportif n'est qu'un écho de la bizarrerie du monde. Toute cette brume ne servait donc qu'à cacher la réalité tragique d'une société grossière, hiérarchisée et structurellement inégale.
Structurel, adjectif dérivé du nom structure, lié à la disposition ou l'agencement des parties d'un ensemble. Structure sociale, formation sociale distincte, stable, voire sclérosée, dans laquelle les individus devraient interagir, a fortiori s'ils vivent les uns à côté des autres.
Suite à cette enquête que notre apparatchik Loïc et notre secrétaire général Mao Thieu qualifieraient de conscientisante, voilà nos conclusions et prérogatives générales. Voir.
Nous avons vu des jeunesses vivant au même endroit et pourtant à 1000 lieues les unes des autres. Des jeunesses ayant des cultures et des réalités sociales différentes, hiérarchisées sur l'échelle du mystère.
Comprendre.
Le mystère n'en est plus un. Le doute fait place à un constat clair, froid et révoltant. Les rapports sociaux ne sont pas des rapports naturels et sont plutôt régis par un système de domination.
Agir.
S'allier au spectre révolutionnaire pour mettre en lumière et anéantir le fantôme brumeux du capital.
Un seul mot d'ordre.
Nous devons prendre part à la guerre des spectres, brume versus révolution, et plier le Game of Troy.
C'est bon, c'est... Ouais, terminé.
C'est bon ?
Très bien. Alors, maintenant, on va passer à un... karaoké. Ouais, karaoké. C'est parti. Eh ben, c'était cool. C'était un très joli karaoké.
Incroyable.
Et vous êtes toujours dans XLR Accélère. Ça continue ou pas le karaoké hein, c'est fini. Ah, c'est fini, parfait. Heureusement pour nos oreilles. On retrouve Dimitri autour de la table qui va nous parler, je crois, de faits divers.
Et oui, Esteban, merci. D'ailleurs, en dépit de tout, n'oublions pas que le monde est triste et froid. Hein, on va tous mourir seuls. Jeff Bezos est toujours trop riche. Et malgré les armes, les drapeaux, les patries, les nations, on ne sera toujours que de la chair à canon. Gardons l'esprit qu'il est toujours plus simple de ne regarder que des choses tristes pour se convaincre que notre vie n'est pas si nulle. On vous propose donc notre enquête criminelle, enquête de terrain, dans la rubrique des faits divers.
C'est parti.
Enquête de terrain. La disparition de Patrice FM, animateur vedette.
3. Quartier de la Rosière. Un matin pluvieux dans cette commune de l'Aube est annonciatrice d'un événement tragique. Nous sommes le 14 septembre, il est 7h12, et les fonctionnaires de police s'affairent près du centre-ville. Patrice FM, animateur vedette de la radio Grand Est 24, est officiellement porté disparu. C'est une voisine qui a signalé la disparition après avoir remarqué sa porte fracturée au second étage de la résidence Le Maquis. Marie-Cécile se confie aux journalistes.
Je suis encore vraiment sous le coup de l'émotion. J'allais sortir promener mon caniche. Au moment de sortir, j'ai découvert vraiment la porte de Patrice qui était complètement défoncée. Noircie, déchiquetée, on a vu vraiment qu'il y avait eu des coups. J'ai pas su... J'ai paniqué sur le coup, j'ai pas su quoi faire. J'ai crié, Patrice ! Je savais pas du tout ce qui avait pu se passer. J'ai peur.
Mais qui était exactement Patrice FM ? And now, it's
time for a classic. Il est 15h, je suis Patrice FM et vous êtes sur Grand Est 24, la radio à l'ouest qui ne perd pas le nord. Et en parlant de girouette, on s'intéresse aujourd'hui à l'équipe de pelote basque.
Née en juillet 71 à Dax, l'animateur favori des Français était une figure de Grand Est 24. Sa présence quotidienne dans les émissions d'information lui avait construit une réputation d'homme sympathique et professionnel.
Nous irons tout à l'heure à la rencontre de Monique Poivre, organisatrice de sa compétition.
Mais Patrice n'avait peut-être pas que des amis. Aurélien Platine, chroniqueur musical du 19 minuit sur Grand Est 24, nous apporte un élément de réflexion.
Oh, vous savez, moi, mes relations avec Patrice FM étaient relativement lambda. Hein. On n'était ni bons ni mauvais amis, on était voilà, collègues, comme on peut dire ça. Mais j'ai des petits doutes sur la relation qu'il avait avec Aude, qui bosse aussi dans la radio. Je pense qu'elle ne pouvait pas le blairer, ouais.
Visiblement sous le coup de l'émotion, les locaux semblent avoir du mal à se confier sur l'événement. Dans les locaux de Grand Est 24, nous rencontrons donc Aude, directrice de programmation au sein de la radio, au sujet des récentes accusations à son égard.
Eh bien avec Patrice, niveau professionnel, ça n'allait pas du tout, pas courageux, ne faisant pas ses dossiers à temps, donc il nous mettait dans un pétrin, c'est pour ça que nos relations n'étaient pas forcément cordiales. Mais ces accusations, en tout cas, ne tiennent pas debout parce que pendant sa disparition, j'étais à l'autre bout de la France, en train de regarder, aller voir un concert de notre ami Michel Sardou. Ces accusations sont fausses et j'espère qu'on retrouvera le coupable.
La piste de la fuite est alors envisagée. Patrice FM aurait-il choisi de partir pour couvrir un secret honteux ? Pour le commissaire Boissard chargé de l'enquête, ce scénario ne tient pas la route.
Non, ce scénario ne tient pas la route. Avec sa porte fracturée, nous, ici, à la police, on privilégie la piste criminelle. On a retrouvé un petit peu de matériel génétique sur la porte. Il est en cours d'analyse au laboratoire. Et rapidement, on pourra peut-être faire avancer un petit peu notre enquête. En attendant, on sait aussi que Patrice FM préparait un reportage sur les rapports de domination. Peut-être faut-il chercher de ce côté-là.
Les rapports de domination, un sujet épineux au cœur de notre société. La police est sur une piste qui n'est pas à écarter. Se pourrait-il que le projet délicat de Patrice FM ait pu motiver ses détracteurs à s'en prendre à lui ? Questionné à ce sujet, le professeur Jimmy Connors, archéologue réputé et conférencier au Nouveau-Mexique, nous en apprend davantage sur les rapports de domination.
Oui, bien sûr, ces animaux font partie de la famille des théropodes et ont disparu à la fin du Crétacé. On les connaît surtout pour leurs griffes acérées et leurs techniques de chasse très sophistiquées. On pense qu'ils pouvaient se déplacer à plus de 40 km/h lors d'une attaque groupée, sur une proie rapide ou parfois sur des gros herbivores.
Les éléments apportés par le professeur Connors ne sont d'aucune utilité à notre enquête. Des recherches approfondies auprès du Centre européen de la recherche scientifique ont démontré que les vélociraptors n'avaient en réalité aucun lien avec le sujet. Il s'agit simplement d'une incompréhension et d'une maladresse de la part du Dr Connors. L'enquête semble alors être au point mort, et le commissaire Boissard évoque une nouvelle piste.
Eh bien, on a retrouvé des plumes sur les lieux, et elles sont également en cours d'analyse. On va sans doute nous apporter d'un instant à l'autre la réponse de quel type de vol est-il s'agit-il, ou ces plumes font-elles partie d'un objet usuel type oreiller, boa. Nous le saurons bientôt. En tout cas, pour l'instant, l'enquête est au point mort.
Des plumes sur la scène de crime. Se pourrait-il que cette découverte ait un lien avec les ravisseurs de Patrice FM ? Interrogé à ce sujet, le professeur Connors émet une théorie.
Certains scientifiques s'accordent en effet sur le fait que certaines espèces de théropodes pouvaient être dotées de plumes. Dans des fossiles découverts au cœur des collines rocheuses du Wyoming, des restes de vélociraptors présentent en effet des cavités poreuses pouvant témoigner de la présence d'un plumage dense. Ces animaux étaient fabuleux.
L'obsession du professeur Connors au sujet des dinosaures commence à devenir pénible. Les vélociraptors, les paparazzi et les touristes commencent à parasiter l'enquête et la médiatisation massive de cette dernière est un problème pour les recherches de la police. Pour la procureure de Troyes, il est temps de faire appel à une aide extérieure.
Ce n'est pas pour remettre en question les capacités du commissaire Boissard, mais nous devons absolument avancer sur l'enquête. Les indices commencent à manquer et nous voulons éviter de créer une surmédiatisation de l'affaire avant de sa résolution. C'est pourquoi nous avons contacté Interpol afin de faire appel à un expert et nous avons confié l'enquête à Mel Gibson.
Quand j'ai appris la disparition de cet animateur, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Interpol m'a contacté et j'ai pris le premier avion pour Troyes. Vous avez vu mon film sur Jésus ? Il est super !
Mais l'aide de Mel Gibson sera-t-elle suffisante pour découvrir quel mystère se cache derrière la disparition de Patrice FM ? Pour l'heure, aucun suspect ne figure au tableau des forces de l'ordre. Mais un élément inattendu va bouleverser le déroulement de l'affaire. La police scientifique s'attelle à l'analyse des plumes récoltées dans l'appartement. Et ce qu'ils vont découvrir va donner à l'enquête une tournure inattendue. Celles-ci ont en effet révélé une teinte de bleu et pourraient en effet provenir de l'oiseau Twitter, figure emblématique des réseaux sociaux. Une découverte remarquable qui suscite rapidement des réactions. Aurélien Platine se confie sur les avancées de l'enquête.
Il avait peur de perdre son emploi à cause des réseaux sociaux, que cela remplace la radio. Bah, il flippait, hein. Il flippait, c'est un peu, vous savez, comme les anciens, voilà, tu leur parles de YouTube, de Snapchat, tout ça, tout ça.
Suite à ce témoignage fracassant, une théorie va alors prendre vie dans la pensée collective. Patrice FM, animateur radio, aurait-il été mis à mal par les réseaux sociaux ? Faisant figure de médias de référence, mais parfois délaissés par les nouvelles générations, la radio peine-t-elle aujourd'hui à maintenir son statut auprès du public ? À l'image de la télévision, les nouveaux médias pourraient-ils en effet signer la fin de la radio ?
J'aurais tendance à dire non, parce que sur YouTube, on peut voir en vidéo des podcasts, qui sont également diffusés sur Spotify, Deezer, des trucs comme ça. Mais du coup, ça mixe les deux.
Alors ouais, effectivement, même si on utilise toujours la radio, ça va être sous d'autres formats avec le podcast. Après, je pense qu'il peut y avoir des retours à l'envers, qui sont un peu des effets de mode, et que la radio, elle va continuer à exister quand même, je pense.
Je pense pas. Je pense que la radio est plus à ses heures de gloire, mais qu'elle va rester comme ça, à peu près. Un truc où certains continueront d'écouter Skyrock le soir et d'autres des radios plus associatives.
Je pense que ça dépend ce qu'on met derrière le mot radio. Les radios FM, oui, certainement. Mais comme maintenant, le podcast, c'est un média du net, quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça va surtout translater vers ça petit à petit, quoi.
Honnêtement, ouais. À mort, parce que moi je vois que on favorise l'utilisation de tous ces réseaux-là et que ce soit le média radio ou presse, enfin presse écrite ou même télé, au final maintenant.
Rapidement retrouvé et arrêté par Mel Gibson et les forces de police du commissaire Boissard, l'oiseau de Twitter a été rapidement entendu au tribunal de Troyes.
Je n'ai rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, ces plumes ne sont pas les miennes. Je n'ai rien contre cette personne, ni contre la radio en général. En fait, je pense que la police perd son temps à me garder ici.
Une déclaration qui va semer le doute dans les médias, et le verdict ne va pas tarder à tomber. Faute de preuves, l'oiseau Twitter est relâché, et l'enquête semble à nouveau être au point mort. Mais l'affaire ne semble pas encore avoir fini de nous livrer tous ses secrets.
Vous savez, parfois, certaines enquêtes sont tellement complexes qu'on semble jamais être capable de les démêler. Vous avez vu mon film sur l'indépendance de l'Écosse ? Il est super, mais ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que ce monde va mal, et que les actes criminels comme cette disparition doivent nous aider à devenir meilleurs. Vous avez entendu ce bruit ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, est-ce que c'est un vélociraptor ?
Contre toute attente, suite à ce récent événement et en dépit des avertissements du professeur Connors, la piste du vélociraptor est enfin envisagée par la police. Mais le temps jouant contre eux, et faute de moyens, ce dernier ne sera pas retrouvé.
Personne ne m'écoute jamais. Les marques de coups sur la porte de la victime correspondaient parfaitement à celles d'une griffe de raptor. Mais voilà, on ne prend jamais au sérieux.
Une affaire qui, malheureusement, sera rangée aux côtés des autres enquêtes classées sans suite.
Très bien, très bien. J'ai envie de voir un vélociraptor pour de vrai maintenant. Maintenant, on va parler de... Enfin, vous allez parler de rap. Il y a autour de la table SKA, A2N, Dimitri, Elbazar et Antoine.
C'est... Moi, c'est pardon, j'ai un pseudo.
Ah oui ?
Jay-Z.
Jay-Z.
Ouais.
Oh, j'aime bien.
Merci, c'est le mien.
Bonjour, pour vous c'est quoi le rap ?
Je sais pas, c'est de la musique.
Bah, c'est des musiques qui vont vite.
Le rap, c'est un genre musical. Voilà, je saurais pas trop dire les caractéristiques.
Le rap, c'est la meilleure musique qui puisse exister depuis les années 90.
Et ça correspond aussi à une certaine culture.
Ah, si, c'est violent. C'est violent. C'est pas parce qu'ils parlent mal. Il y a beaucoup de gros mots. Il y a des parents, enfin, ils interdisent les enfants de regarder, quoi, d'écouter. Donc, ouais. Pour moi, c'est violent.
D'après moi, ce sont des jeunes chanteurs ou plus vieux qui produisent de la musique.
C'est un mouvement assez populaire, c'est de la musique urbaine qui existe déjà depuis une trentaine d'années, même voire plus.
Bah, le rap, c'est un genre de musique chantée par tout le monde. Il y a plusieurs styles de rap.
C'est les personnes, pour moi, qui racontent leur avenir, leur passé, qui essayent aussi de faire... développer leur passé par la musique.
Moi, je trouve qu'ils parlent de beaucoup de problèmes de société. Je trouve ça super intéressant.
Et d'après vous, qui fait du rap ?
Qui en ferait ? Plus les jeunes, ouais. Les personnes qui sont sensibilisées. Je pense qu'il y a tous les milieux sociaux.
Plutôt les jeunes, hein, de toute façon. Enfin, les jeunes, je me considère encore comme jeune, mais plutôt ceux qui ont grandi avec l'évolution du rap.
Tout le monde peut faire du rap.
Bah, tout le monde, des gens qui ont des qualités dans la musique, quoi.
Bah, ça va être majoritairement des hommes. Je sais pas trop de quel milieu ils viennent en général. Peut-être que ça se trouve, ça se démocratise aussi de plus en plus.
Mais je pense qu'il y a plus d'hommes rappeurs que de femmes. Je connais plus d'hommes. En général, les personnes parlent dans la musique, ça vient surtout des quartiers. Enfin, c'est surtout... En tout cas, les paroles, c'est surtout des quartiers, mais... Après, je connais pas tous les rappeurs non plus, mais ouais, je pense plus des milieux défavorisés.
Je dirais plus les jeunes qui sont orientés vers ça, parce que maintenant ils savent qu'ils peuvent se faire de l'argent grâce à ça. À force de rester dans leur quartier et tout, ils écrivent des textes, tout ça, et du coup après ils se lancent dans le rap. Et entre potes et tout, ça part vite, c'est comme ça que ça commence.
Mais maintenant je trouve que ça a beaucoup évolué, tout le monde dans toute catégorie sociale... fait du rap. Bah, tout public, hein, quand on voit Orelsan, ou alors PNL, ou alors encore Nino, tous ces rappeurs, c'est vraiment un public super large.
Mais après, la plupart, elles sont tous de cité, et c'est comme ça. Hein.
Et d'après vous, qui écoute du rap?
Bah, par les ados, les frados, après il y a quelques adultes qui écoutent.
Bah, même les jeunes adultes.
Ouais, je pense que les étudiants en écoutent pas mal et après les personnes âgées en écoutent moins. Je dirais entre 15 et 30 ans. Après, ça dépend quel rap, il y a plusieurs types. Ça dépend si c'est du rap français, du rap américain.
Pour vous, ça va de tous les âges maintenant. Hein. Je connais des personnes qui ont 60 ans qui écoutent du rap et mes enfants écoutent du rap, ils ont 11 et 12 ans. Donc, c'est pour tout le monde.
Je pense que tout public, après ça dépend des rappeurs.
Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge, après c'est juste tout le monde a un vécu. Personnes qui sont intéressées à découvrir.
Ouais, jeunes de quartier.
Plus défavorisés, c'est moins les gens de aisés qui écoutent le rap.
Dans un lycée catholique, ça écoutait moins de rap que par exemple ici l'UTT, je suis à l'UTT, on écoute beaucoup plus de rap.
Non, je pense que ceux qui ont le balai dans le derrière, ils n'en écoutent pas. Ils devraient pourtant, ça les déconcerait peut-être un peu.
Mais je pense que ça se démocratise de plus en plus, il n'y a pas vraiment de genre... attitré.
Je trouve que le rap a vraiment pris une place majeure dans la musique actuelle.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux invités sur Rapdio Bra. Je tiens à remercier Walzer de nous avoir donné son rap pour cette petite intro, donc grosse dédicace à toi. Ici Ska et je suis en compagnie de mon binôme A2N.
Merci Ska. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui avec nous Elliot et Dimitri. Comment ça va les gars?
Mais ça va bien.
Ça va, merci. Mais moi, je préfère Jay-Z.
T'as bien raison. Désolé.
Jay-Z.
On est au centre sportif de Troyes pour une formation autour de la radio et on vient tout juste d'écouter différents avis sur le rap. Avec Ska, on est allé se balader pour discuter rap avec les gens qui traînent autour. Et vous, vous en pensez quoi? C'est quoi votre rapport au rap?
Je vais commencer. Mon rapport au rap, il est assez... il est relativement minimal, car je viens plus de la scène rock-metal. Mais ceci dit, en fait, mon rapport au rap est que je pense que ça peut toucher tout le monde. Parce que je sais que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup été touché par la rappeuse Kenny Arcana, que ma sœur écoutait beaucoup. Et où j'ai découvert, du coup... peut-être toute une dimension qu'avait le rap que d'autres musiques n'ont pas forcément, qui donne le micro à tout le monde. En fait, il est plus fait. Le rap est un style qui est beaucoup plus fédérateur, enfin, et beaucoup plus. J'ai perdu le mot. Quand on y a beaucoup facilement accès, il y a un mot.
Accessible.
Merci. Oh. Ouais. Exactement. Un style très accessible et du coup, je trouve que c'est vraiment une force en fait de ce style. De pouvoir donner la voix un peu à tout le monde.
Merci.
Moi, ce que je trouve vraiment fort avec le rap, j'en écoute depuis l'adolescence, mais c'est vraiment là depuis, je dirais ma vingtaine que j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. C'est, à mes yeux, c'est le style de musique qui veut et qui fait passer le plus de messages. Un morceau de rap, c'est extrêmement dense. Et... même plus que le beat, ce qui est vraiment important justement, c'est ce que la rappeuse veut transmettre. Et justement, en fait, il y a une infinité de messages et de textes qui sont tous plus forts les uns que les autres. Et justement, c'est cette capacité qu'ont les musiciens, les rappeurs à faire passer autant d'idées, en fait, autant de choses, autant de cris dans un seul morceau ou dans un seul album. C'est, je trouve, ce qui donne toute sa force à ce style.
Et par rapport à ce qu'on a écouté dans notre intro. Est-ce qu'il y a eu quelques réflexions qui vous a marqué ou sur laquelle vous avez envie de rebondir?
Je pense qu'il y a ce qui ressort le plus, mais même au-delà de ce qu'on a écouté là, dans les médias en général ou dans les discussions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, c'est le rapport plutôt générationnel au rap qui fait qu'il y a un côté grand public assez peu initié à ce style, qui a énormément d'idées reçues, de clichés en tête et en fait qui véhicule une espèce de débat le rap pour ou contre qui devrait pas avoir lieu parce que c'est un style de musique comme un autre et je vois pas pourquoi on n'aurait pas des débats le rock pour ou contre finalement parce que c'est la même chose et je pense qu'il y a simplement en fait une discussion qui doit y avoir en fait sur une initiation pour les personnes qui sont pas forcément, non pas qu'elles sont pas sensibles mais qu'elles sont pas initiées ou qu'elles ont pas pris le temps de découvrir ou qu'on n'a pas pris le temps de leur faire découvrir en fait tout l'intérêt du rap. Après c'est comme toutes les musiques, il y a des musiques moins bien que d'autres. Mais par principe, je trouve que c'est, de par son histoire et de par la place qu'il a aujourd'hui, notamment en France, c'est un genre qui est plus qu'intéressant et que recommander à tout le monde, toute personne qui s'y intéresse pas de se pencher dessus et de découvrir quoi.
Moi j'ai l'impression aussi que le rap est souvent jugé comme quelque chose d'assez spécifique et vraiment une niche qui rassemble vraiment qu'une seule population, là où je pense que c'est totalement faux, d'autant plus si on commence à regarder à l'international, où en fait y a des artistes qui, de tous les horizons, de tous les milieux sociaux, qui viennent vraiment de partout, qui font du rap. En fait, c'est que clairement pas un style aussi niche que ce qu'on pense, et qui fédère une seule population. Je pense que c'est vraiment un style qui est potentiellement en fait le style le plus démocratisé sur la Terre.
Super. Ben, merci beaucoup les garçons. On va pas continuer plus loin dans les questions parce qu'on est un peu pris par le temps et qu'on vous a concocté un joli petit jeu.
On va vous faire écouter de petits extraits de différents artistes. Alors le but, c'est la musique va se couper à un moment et vous allez devoir trouver le mot manquant.
Wow, okay.
Le mot manquant ?
Oui.
Exactement.
Eh ben, dis donc.
Ça va aller ?
Ouais, ouais.
Allez, c'est parti. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le dick, le son et les chiffres. Mais bien sûr, j'ai fini seul, seul avec ma plume. Rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante, ta putain de peine et que les chants.
Seul avec ma plume, rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante, ta putain de peine et que les gens. Seul avec ma plume, rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante, ta putain de peine et que les gens.
Que les gens allaient, on danse.
Non.
Que les gens plantent une tente.
Non plus.
Ça rime bien.
Ça donne des idées.
J'ai pas, je l'aurais pas.
Ouais, non,
allez, chante ta putain de peine que les gens.
Que les gens.
Que les gens là.
La boulette.
Que les gens la ferment un coup. Ouais.
On va essayer de rester dans le rime, Elliot.
Pardon.
Non, moi je
crois pas en rime.
Allez, et ben on va écouter la réponse.
Vas-y. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le dick, le son et les chiffres. Mais bien sûr, j'ai fini seul, seul avec ma plume. Rêvant d'une vie plus qu'alléchante, alléchante, ta putain de peine et que les gens la ressentent. Mais derrière mes fautes de grammaire, il y avait de la rage, messieurs, mesdames, je vous le jure, j'avais des tubes dans mon cartable. Donc, du coup, c'était que les gens ressentent. Donc là, on vient d'écouter, c'était le titre de Diams, Petite banlieusarde. Donc Diams, c'est une rappeuse des années 90-2000.
Et on va juste en faire une petite dernière. Du coup, on va écouter La Section d'Assaut, un groupe de rap de Paris. Ils appellent ça la vie, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Je vois c'est de quoi je parle, à force de l'être. Ils appellent ça... Ils appellent ça la vie, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Le face, c'est de quoi je parle. À force de l'être, ils appellent ça.
Wow. Uh-huh. La casquette à l'envers.
Tu vas nous sortir tous les titres.
tu peux répéter.
Alors, ils appellent ça la vie, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Le fa, c'est de quoi je parle. À force de l'être, ils appellent ça.
Non, aucune idée. Décidément.
Je pense que vous avez pris
je suis pas très bon parolier.
Deux personnes les moins gang de toute
ouais,
la promo.
C'est ça, on est les moins gang. Rap. Donc,
Pourtant, mais c'est pas toi, Jay-Z ?
Moi, je suis Jay-Z, mais c'est juste un pseudo.
Ah, ok. Mais
c'est Jay-Z.
Est-ce qu'on a un nombre de syllabes ? Est-ce qu'on peut avoir le nombre de.
On peut chercher sur.
3.
Ils appellent ça 1, 2, 3. Ils appellent ça la justice sociale.
Non, de syllabes, pas de mots.
Oui, non, je sais, mais c'était la blague.
Très bien, bon.
On va peut-être écouter la réponse.
Ils appellent ça la vie, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Je sais pas c'est de quoi je parle, à force de l'être. Ils appellent ça le système pour du pif sous la table, faut insister.
Eh bien, c'était le système.
Oh, c'est Squid Game.
Ouais. Bravo quand même, c'était pas facile. Et merci d'avoir participé.
Bah, on était excellents en plus, je pense.
Vous avez été excellents, ouais. Oui. bien sûr. Et maintenant, on va accueillir Antoine, un rappeur de Troyes, qui est aujourd'hui avec nous.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment vas-tu ?
Eh ben ça va. Moi aussi j'ai un nom de scène, c'est H-Tone.
H-Stone.
Voilà. H-T-O accent circonflexe N-E.
Très bien, H-Tone. Du coup H-Tone, qui est donc un rappeur à 16 heures perdues ici à Troyes.
Oui.
Donc c'est quoi ton rapport au rap ? Dis-nous tout.
Mon rapport au rap ? Oh, c'est compliqué comme question. Mon rapport au rap, j'écoute très peu de rap et je rappe beaucoup. J'écris énormément. En fait, j'ai commencé à faire du rap. Au début, j'ai toujours écrit un peu parce que ça me. J'ai tendance à ruminer beaucoup. Quand j'ai un truc dans la tête, je reste kéblo. Je peux tourner en rond longtemps sur quelque chose sans jamais réussir à m'en extraire. Et donc, j'ai toujours eu besoin d'écrire pour structurer ma pensée, pour essayer de comprendre ce que je pense parfois. Donc j'écrivais avant, puis finalement j'ai commencé à faire un petit peu de chansonnettes, guitare, mais je savais pas trop jouer de guitare, donc je faisais les trois accords barrés avec lesquels tu peux faire tout trio, et je mettais des textes par-dessus, mais les textes étaient un peu pourris, et on m'a initié au slam. Et là dans le slam, il est plus question de musique, il est question uniquement de texte, il n'y a plus vraiment moyen de se dissimuler. C'est assez brut, et du coup là j'ai commencé à accorder vraiment beaucoup d'importance au texte, à la forme du texte, et plus seulement au fond. Et donc j'ai commencé à mettre des trucs en vers, en rime, j'ai découvert les flows, donc j'ai commencé à aller explorer un peu du rapide, du lent, voilà.
D'accord. Et du coup tu cherches à faire passer des messages, je suppose, peut-être dans tes textes.
Est-ce que je cherche à faire passer des messages? Parfois oui, parfois non. Ça dépend en fait, c'est pas toujours le même processus d'écriture. Ça arrive que j'ai vraiment une volonté de développer sur un sujet et de faire une synthèse. Typiquement, il y a quelques années, il y avait eu un affrontement sur les réseaux sociaux entre les pro-Dieudonné et les pro-Vals. Et où finalement, dès qu'on disait que ce qu'on pensait de Dieudonné, on était identifié pro-Vals. Dès qu'on disait ce qu'on pensait de Vals, on était identifié pro-Dieudonné. Et j'ai discuté pendant des mois avec des gens sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et je me suis dit à un moment, je ne peux pas passer mon temps à discuter comme ça. Je savais exactement ce quoi en penser. Donc j'ai décidé de faire vraiment un texte où là, vraiment, le but était de poser ma pensée sur un texte, sur un son, et de diffuser le truc. Voilà. S'il y avait une discussion qui démarrait, quelqu'un qui voulait me parler de ça, je balançais le son, je disais en fait tout ce que je pense y est, et j'ai pas l'intention de discuter de ça, c'est pas négociable.
D'accord.
Et parfois ça va être j'écris pour le kiff d'écrire, quoi. Donc là il y a toujours des messages qui vont se retrouver dedans, parce que je pense que je suis personnellement engagé, que j'ai des engagements politiques et des sensibilités qu'on va retrouver dans les textes, mais c'est pas toujours le but du morceau, quoi.
D'accord. Comment tu relis le hip-hop et la lutte contre les discriminations ?
Comment est-ce que je relis les deux ? Ben, parfois, dans certains textes, je vais essayer de véhiculer ça, d'apporter des questionnements sur le sujet. Je trouve que c'est un milieu qui n'est pas toujours très sensibilisé. Je reviens sur cette histoire par exemple de Dieudonné Vals. Il était assez courant dans le milieu rap d'être plutôt pro-Dieudonné sans vraiment le questionner. C'est plutôt un milieu qui globalement n'est pas très sensibilisé aux problématiques des dominations, si ce n'est la domination économique, on va dire.
Merci. Pour finir, aurais-tu un dernier petit message à faire passer aux gens qui nous écoutent ? Autour du rap.
Un petit message autour du rap. Écoutez ce que vous voulez, en fait. Moi, j'ai mes sensibilités sur les choses qui vont être plutôt politisées. Après, il ne faut pas essayer de, tu vois, il faut pas tomber dans le truc un peu réac de le rap, ça doit être engagé. Il faut pas tomber dans le truc un peu simpliste de, en fait, c'est que de la musique, parce que ça peut véhiculer aussi d'autres choses. Mais dans le fond, écoutez ce que vous voulez. Il y a pas de culpabilité à avoir à écouter ci ou ça, et il y a pas de fierté non plus à avoir à écouter tel ou tel artiste.
Très bien. Merci Antoine pour tes réponses et ta présence. On vous quitte donc sur un freestyle, de Ashtone accompagné...
Le Dancing Cactus.
Voilà. Merci à tous et à toutes. Bisous, bisous. Bra! You.
25 Cactus à la guitare. Yeah. J'ai pas grandi dans le ghetto, toujours bouffé à tous les repas. Je vais pas te servir un mytho, j'ai toujours une place sous un toit. Pas connu la vie dure, même je crois, toujours le choix. Un peu cédé à l'aventure, comme le font les petits bourgeois. Mais j'ai pas connu la faim, j'ai pas connu la guerre. J'ai pas vécu l'atteinte, les inconvenus, la ferme. Pas vécu le racisme enfin, pas le refuge communautaire. Et comme c'est convenu, j'ai faim de croire en l'égalité sur terre. On m'a pas sifflé dans la rue, à peine dévalorisé, pire, pas non plus. Faites vanne auquel je me sens obligé de rire. Humilié, léger, mais jamais fait croire que je gênerai. Je suis pas cible privilégiée dans ce monde dégénéré. Je suis un homme cis, blanc, mince, hétéroculturé, conscient plus ou moins du bon côté de la frontière. Et comme tu le vois, je peux te parler de volonté. C'est facile quand t'es moi. J'ai jamais vraiment croisé dans un regard le mépris, jamais vraiment passé du temps à regarder les prix. Si je veux du taf, je les pire, je peux dire je me barre de la tienne. Je peux faire le choix de m'enfuir, je crois n'avoir jamais craint de manquer, de ne pas être accepté. Je ressens pas le besoin de me planquer quand l'extrême droite croit c'est vrai. Je vois que d'ici, et je crois que je discerne, mais je crois que ça suffit qu'à dire je crois, pas je sais. Pas franchement emmerdé quand le matin je choisis mes fringues. Je sais que je peux me balader, même en calbuton, on me dit rien, c'est l'homme qui rince. Moi on me demande pas de céder aux caprices des petits princes, et on me traite pas de pédé. Je suis un homme cis, blanc, mince, hétéroculturé, conscient plus ou moins du bon côté de la frontière. Et comme tu le vois, je peux te parler de volonté. C'est facile quand t'es moi, j'ai eu des parents peu aidés, que quelque part j'ai pas raté. Pas eu d'enfance dure à vivre, tu veux qu'on parle, qu'on part à d'autres, pas eu de réflexion sur année, sur mes nibars ou autres. Si j'ai peur quand je pars seul la nuit, c'est juste parce que je suis parano. On me regarde pas comme une friandise ou comme la déco, me fait pas croire que leur gourmandise devrait me flatter l'ego. Me dit que pas que ce qui compte toujours le jour, c'est que je sois aimable ou belle. On me lit pas de compte ou par amour, je fais le ménage ou la vaisselle. Je rate pas les entretiens d'embauche à cause de mes pigments. Je crois pas qu'on entretient la fausse idée que je cours plus rapidement. Je le porte sur mon visage et je n'ai de tout temps jamais ne serait-ce qu'envisagé que puissent mes gènes être handicap. Non, homme cis blanc, mince, hétéroculturé, conscient plus ou moins du bon côté de la frontière. Et comme tu le vois, je peux te parler de volonté. C'est facile quand t'es moi. Je suis un homme cis blanc, mince, hétéroculturé, et conscient plus ou moins du bon côté de la frontière. Et comme tu le vois, je peux te parler de volonté. C'est facile quand t'es moi.
Il faut contester aux dominants tout ce qu'ils ont accaparé. Il ne faut pas du tout leur reconnaître ce dont ils bénéficient. Il faut leur contester tout en disant le monde il est à nous. Le monde il nous appartient. J'appartiens au monde autant que vous. Et donc je veux tout comme vous avez tout pris au préalable.
Et bien voilà, c'est la fin de XLR Accélère. C'est aussi la fin de cette belle formation radio et éducation populaire. Et j'aimerais quand même remercier les deux formateurs. Loïc et Mathieu, ainsi que Valérie, Victor, Elisa, Antoine, Dimitri, Elliot, Anna, Scarlett, Paul, Claude, Ophélie et moi-même. Et puis bah, ouais, c'est important de se remercier soi-même. Merci à moi d'être venu. Et puis bah voilà, en espérant que cette émission vous a plu. Et puis on se dit ciao ciao.